monsieur qui peut me serrer ça encore là.
On ne pas jouer en marchant là.
Hello, beautiful Miss Angela. Hi, sweetie.
Aucun hasard. Si cette cérémonie a cette année une dimension, un sentiment partagé particulier, c'est sans aucun doute, chère Angela Davis, parce que vous nous avez fait l'honneur de votre présence. Oh, bien sûr, cela n'a pas été simple. Cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a fallu expliquer, convaincre, rassurer aussi parfois. De grandes étapes ont jalonné ce parcours. Certains ici se rappellent de l'exposition Les Anneaux de la Mémoire, dès 1992, qui a permis pour la première fois d'analyser et de comprendre ces faits historiques. Plus de 400 000 visiteurs. Des actions de coopération, de jumelage avec des villes africaines et sud-américaines, marquées par l'histoire de la traite. L'ouverture de salles dédiées à la traite négrière au musée d'histoire de Nantes. Et bien sûr, en 2012, l'inauguration du mémorial, en hommage à tous ceux qui ont lutté, qui luttent et qui lutteront contre l'esclavage.
Quand la traite devient interdite, on ne se vante plus d'être des négriers interlopes, et après, on essaie d'oublier le passé négrier. Et la mémoire officielle va contribuer à ça. On est glorieux de Nantes au 18e, les Nantais ont élevé une statue, juste après la Révolution, ont élevé une statue à Louis XVI, c'est une des rares villes en France avec Bordeaux, pour les mêmes raisons. C'est des villes qui ont connu leur apogée, grâce à ce roi et grâce au commerce qui l'encourageait fortement. Même si dans les livres, on ne dit pas assez que le commerce négrier était fortement encouragé par des primes à l'armement, par la monarchie, par l'anoblissement des négriers, par... voilà. On ne le dit pas, et ce n'est pas présent du tout, par exemple, dans le mémorial. Dans le mémorial, on ne sait pas du tout d'où vient la traite négrière, en fait. Ce mémorial ne remplit pas le rôle historique qu'il aurait dû remplir. Il existe, donc il faut maintenant en tenir compte et l'utiliser. Pour le fréquenter beaucoup, je ne l'ai vu qu'une fois ou deux fonctionner selon le but affiché, c'est-à-dire être un lieu de méditation pour les visiteurs. Je l'ai vu avec des jeunes femmes noires qui manifestement se recueillaient. Mais c'est minime, la plupart du temps il y a d'abord très peu de gens qui y vont, ensuite c'est une fréquentation à caractère touristique où les gens restent sur leur faim. Ça je le sais parce que j'ai une casquette, donc les gens ont tendance à me poser des questions comme si j'étais guide, et évidemment je suis très enchanté de leur répondre, mais ça fait ressortir le fait que les gens vont pas pour une allégorie de la libération, de l'émancipation, les gens y vont pour apprendre des choses sur la traite et sur les conditions réelles de vie de l'esclavage. Et ça, ils restent sur leur faim, malgré les très beaux textes collectionnés. Il y a très peu de choses sur l'histoire réelle de la traite négrière. On est dans l'allégorie Troisième République sur les grands idéaux, les grands textes généreux, etc. Et ça, c'est très dommage. Ça laisse vraiment le public sur sa faim. En plus, c'est quelqu'un que j'adore, donc je ne vais pas en dire du mal, mais on est quand même resté dans le langage Victor Schœlcher.
L'élément le plus flagrant manquant dans ce mémorial, le plus flagrant, c'est qu'en fait, on ne voit pas la parole royale, la parole qui dit que la France veut l'esclavage, la France légitime l'esclavage. On voit une mémoire sectionnée, on voit une mémoire qui parle des abolitions et on voit une passerelle Schœlcher à côté. En fait, on voit la France abolitionniste. On ne voit pas la France esclavagiste. En fait, l'histoire bouge parce que les mouvements, ce sont les mouvements qui font que l'histoire... voilà, c'est la militance qui va faire qu'un jour, on aura une lecture éternelle de ce mémorial, comme ça ou pas. Donc, nous sommes dans une continuité où aujourd'hui, on sait que l'Afrique est encore pillée. On sait que les Caraïbes, voilà, en fait, les gens qui détiennent les terres et tout ça, ce sont les gens qui sont de la lignée de ceux qui ont commis le crime. Les commémorations sont parfois réduites presque à des festivals de la mémoire. Et bon, il y a certaines associations qui peuvent se complaire à vendre du rhum, des beignets, des boudins. Mais voilà, on aime ça, hein, on aime manger, nous tous. Nous, effectivement, on a une autre lecture. C'est la lecture de tout ce qui est de l'ordre de l'héritage de cette histoire. Pour nous, c'est à ce niveau-là. Est-ce que les infrastructures mises en place depuis ont été démantelées? Qu'est-ce qui fait que, décennie après décennie, nous avons des situations de déséquilibre qui sont toujours là? Qu'est-ce qui fait que l'Afrique soit sous respiration artificielle? C'est encore parce que les problèmes de fond n'ont pas été réglés. Et ces problèmes ne seront réglés que lorsqu'on rentrera concrètement dans des vrais processus de réparation. Ce qui gêne à ces bourgeois de la mémoire, ce qui les gêne, c'est qu'en fait, ils veulent nous donner une feuille de route et nous dire « voilà ce qu'il faut faire ». Il y a des forces qu'on ne voit pas, qui sont en train de résister. Parce qu'ils savent très bien qu'en posant le code noir, c'est qu'on pose le fait que l'État a été criminel. Et que l'État étant criminel, ben, en le posant, ben, on ouvrirait un peu place à ce débat qui est nécessaire en France, ces débats, ces échanges sur la légitimité des réparations. Donc voilà, nous on pose les choses aussi de manière simple, comme ça.
Quand je suis arrivé à Nantes, alors qu'en Martinique, ma couleur a fait de moi un blanc, mais un blanc non accepté, parce que j'étais d'une couleur pas blanc, mais je n'étais pas noir non plus. Et donc, un peu la couleur du trait. Et donc j'ai vécu le racisme à l'envers. C'est-à-dire mes compatriotes étaient... J'ai vécu énormément de problèmes racistes en Martinique par rapport à mes propres compatriotes antillais. Et j'arrive en France, à Nantes, et du coup je deviens noir. On m'a identifié comme noir. Et là du coup je ressens, je revis encore la même chose. Les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, les mêmes méchancetés. Et je me suis dit là, j'ai un vrai problème. Qui je suis? Non, mes ancêtres n'étaient pas des Gaulois. Donc, il a fallu, pour moi, mais à partir de cette prise de conscience, je voyais quand même que mes compatriotes étaient toujours dans cette démarche de soumission. Je me suis dit non, nous devons être avant tout en recherche d'identité. Et pour rechercher l'identité, La première chose, c'est de savoir que nos ancêtres n'étaient pas des Gaulois. Donc il faut accepter une histoire, l'histoire de l'esclavage. l'histoire de l'esclavage où on m'en a jamais parlé à la Martinique. Mes parents m'en ont jamais parlé. Et je découvre ça et je prends ce racisme en plein visage hein, ici. Je me suis dit, je vais organiser ma communauté pour créer, et mon objectif était simplement créer un groupe de pression. Je voulais créer un groupe de pression quand je me suis engagé en politique, et en même temps je me suis rendu compte qu'en politique, mais je n'étais pas pris au sérieux. Donc il fallait créer ce groupe de pression. Et du coup j'ai créé ma première association qui s'appelle Combi d'Hommes. Qui était donc, ça voulait dire que lorsque les esclaves voulaient se réunir pour monter des coups, eh bien, ils disaient on va faire un combi. Et moi j'avais fait ça. J'ai monté cette association et on a commencé à travailler sur la notion de la mémoire. Et avec mon association, la première chose que nous avons faite, c'est faisons la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et la première chose que nous avons faite, juste à côté, là, l'autre côté du pont, ben, ce geste de fleurs que vous avez assisté aujourd'hui, c'est moi qui l'ai mis en place à Nantes. Et nous avons fait ça depuis 1986, tous les ans, au niveau associatif. Souvent, on a eu beaucoup de chance comme ça, et puis on a été beaucoup aussi aidés par la presse qui découvrait quelque chose de nouveau et qui nous donnait écho. Et il y a eu un jeune Antillais qui était là dans le conseil d'administration de mon association, et il m'a dit, je connais une fille qui est donc étudiante aux Beaux-Arts, elle est capable de vous faire quelque chose. Et donc j'ai dit ok. Alors, j'ai rencontré cette fille et elle m'a proposé un projet que j'ai dit oui tout de suite, qui était donc un esclave, une statue d'esclave qui se libérait. Vous trouverez les restes au château. Eh bien, lorsque nous avons inauguré en 1998 cette statue, personne ne savait, parce que ça a été toujours frondeur. On est toujours passé par force. On n'a jamais demandé des autorisations. Et on a installé cette statue sur le quai, à l'autre côté. Et cette statue-là, nous l'avons réalisée dans un squat nantais d'artistes. Nous l'avons emmenée la nuit, ici. Nous l'avons installée sous le quai. Et nous l'avions enrubanée. Et nous, devant les idylles de la ville, nous avons inauguré cette statue. On les a fait inaugurer cette statue. La force de cette inauguration était si tellement importante que 8 jours après, cette statue a été profanée. Nous avons résisté à plusieurs reprises. En fait, on l'a redonnée au château des Ducs de Bretagne. Et la municipalité de Nantes a pris une décision de construire un objet mémoriel à Nantes.
La scène est souvent la même. C'est une sortie scolaire organisée par les enseignants que j'ai salués tout à l'heure. Alors forcément, il y a un peu d'agitation quand on arrive. On descend en tram, on est entre soi, tout ça est bien naturel. Et puis, le groupe descend les marches du mémorial. Et là, quasiment systématiquement, il se passe la même chose. Les chuchotements, les rires s'arrêtent. Et c'est le silence. Eh bien, je peux vous dire que quand vous voyez ces jeunes, ces adolescents qui, à un moment donné, s'arrêtent comme ça, et qui, en sortant du mémorial, vous disent qu'il s'est passé quelque chose, alors là, on se dit que Nantes a eu raison. Là, on se dit que Nantes peut être fière d'avoir décidé de faire ce mémorial en face du palais de justice. Parce que oui, nous disons quelque chose à nos enfants, à nos petits-enfants, quand nous entamons une telle démarche.
Ça fait plus de 10 ans que je lutte dans cette ville. Même West France continue à commettre l'erreur d'appeler la journée de l'abolition. Non, il s'agit de la journée nationale les mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Il faut que ceci soit clair. Et ce mélange de genres, de salades composées, quand à cette journée, il faut arrêter de parler de l'esclavage moderne. Ça n'a rien à y voir.
C'est inadmissible, cela. On vient bannir 4 siècles de l'histoire avec le mot esclavage moderne. Qu'est-ce que ça a à y voir? Le mot esclavage moderne ne doit pas exister le 10 mai. Il faut que, je l'ai dit à Héro, comme Héro a baptisé cette place, Mémoria de l'abolition, vous savez, le L apostrophe, l'article et l'idée contractée, identifie, c'est un article défini. C'est-à-dire, on commémore Schœlcher avec la passerelle. Où est Toussaint Louverture ici? Toussaint Louverture était général de l'armée, général en chef, a défendu Haïti pour la France, a battu les Anglais, a battu les Espagnols, a gardé l'île pour la République. Il est mort sans être jugé, sans qu'on ne plaide sa cause. L'article 10, l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme se trouve où? Où est Toussaint Louverture dans tout ça? Voilà l'esplanade de la justice. J'ai demandé à Héro, j'ai fait une pétition, que cette esplanade de palais de la justice porte le nom de Toussaint Louverture. C'est-à-dire, je suis membre fondateur des Anneaux de la mémoire. Quand Héro est arrivé, nous avons soutenu Jean-Marc Héro. Jean-Marc Héro, passé en 1985, nous avait soutenu sur le tricentenaire du Côte Noir. J'organisais les conférences, ce sont des Nantais, il faut rendre ce combat aux Nantais. Parce que les politiques n'en voulaient pas. Ce sont des Nantais qui ont fait cette histoire. Il faut rendre l'hommage aux Nantais.
Un leader et grand guerrier d'une résistance noire, auparavant esclave, se faisait appeler Zumbi. Il était le leader d'un refuge d'esclaves en fuite, Quilombos do Pamares. Son refuge résista durant 15 ans aux attaques des Portugais, avec l'appui des 3000 réfugiés, fuyant les maltraitances des colons et marchands d'esclaves. Grâce à cette détermination, beaucoup d'esclaves ont réussi à vivre libres du système de la traite négrière au sein de ce refuge. À l'intérieur des Quilombos, nous y retrouvons divers folklores de lutte et de danse pratiqués par les esclaves afro-brésiliens afin de s'entraîner au combat, de se divertir, mais également il y avait des pratiques ésotériques qui sont devenues folklore à notre époque.
C'est la question du mémorial qui revient assez régulièrement, et aujourd'hui on peut dire qu'il y a un consensus à Bordeaux sur la nécessité d'un mémorial, y compris chez les personnes qui sont opposantes à une politique de repentance. On peut dire que la question du mémorial aujourd'hui est a priori mûre et mature. Et ensuite, il y a des petites choses qui peuvent être faites, des petites choses, des grandes choses, mais en tout cas assez simplement. Par exemple, on a un buste de Toussaint Louverture qui est rive droite, sur un square Toussaint Louverture. Il y a assez peu de pédagogie autour, on ne sait pas que c'est un buste de Toussaint Louverture si on ne s'approche pas. On peut très bien se balader sur les quais sans voir, sur les berges du Garonne, sans voir que c'est un buste de Toussaint Louverture. Donc l'idée, c'est de rendre ce buste plus visible pour les preneurs et puis d'avoir une pédagogie, notamment en lien avec le fleuve, sur les questions de la traite négrière, de l'esclavage et sur l'histoire de Toussaint Louverture. Donc c'est vraiment une mise en valeur de ce buste sur le square qui porte son nom, pour que ce soit vraiment un espace dédié à la mémoire. Il y a aussi la question de la plaque sur les quais. On a une plaque sur les quais qui est très petite. Est-ce qu'il ne faut pas quelque chose de plus visible? Là, ça revient sur la question du mémorial. Se pose aussi la question des visites guidées du Bordeaux négrier, sachant qu'il y a déjà une association qui propose cela, mais est-ce que l'Office du tourisme ne pourrait pas lui aussi proposer ça? Et in fine, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un guide, différents lieux de mémoire à Bordeaux qui renvoient à cette question de l'esclavage et de la traite négrière?
Je commence mes études à Bordeaux, et au contact des étudiants, surtout antillais à Bordeaux, des étudiants guadeloupéens. Il y avait à l'époque une association très active qui s'appelait l'AGECB, l'association du Guadeloupéen, des étudiants guadeloupéens de France, et il y avait une antenne très dynamique à Bordeaux. D'une manière générale, à l'époque, la fin des années 90, l'AGECB était vraiment très forte, très politisée. C'était des indépendantistes à la base. Et c'est eux, en fait, qui me, qui me donne, enfin qui m'oriente. J'avais une connaissance de l'esclavage parce que je suis né au Sénégal, je connais l'île de Gorée, je connais Joseph Ndiaye. On voit passer des centaines de milliers de personnes qui viennent de partout pour visiter l'île de Gorée. Mais je n'avais pas ce contact avec la diaspora qui est née de cet esclavage. Et là, j'ai ce contact-là. Puisque 98, c'est le 150e, on avait l'impression, vrai ou fausse, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il y avait une sorte de mémoire, disons, autoglorificatrice de la République. C'était le solcharisme, c'était vraiment, voilà, c'était l'époque de Jospin, donc on avait vraiment l'impression que la République s'autoglorifiait, on ne parlait pas des victimes, on ne parlait pas de leurs descendants, on ne parlait pas des résistances, on ne parlait pas des contributions, on ne parlait pas du sacrifice, on ne réparait rien. Mais pour nous, dès le début, on voulait parler de la question des traces urbaines de l'esclavage, c'est-à-dire de ces honneurs qui sont rendus à des gens qui ont participé à l'esclavage et à la traite des Noirs. On partait quand même du livre d'Éric Sogera, qui donne quand même un aperçu très, très efficace et très complet, pratiquement, sur l'ampleur de cette histoire, ses principaux acteurs, ses principaux bénéficiaires. Et donc nous, on savait qu'il y avait des rues. On s'est dit, mais comment est-ce possible? Il faut faire quelque chose par rapport à ces rues. Et la démarche qu'on avait au début, c'était de débaptiser les rues. Mais vraiment, dès le début, en 98, c'était ça. Très vite, par contre, à partir de 2001, 2002, on va commencer à revoir cette position. Et à dire que, en fait, ce que nous voulons au fond, c'est pas débaptiser. Parce que si on débaptise les rues, on efface la mémoire. Nous, ce qu'on veut, c'est que la mémoire, elle reste, qu'elle soit pérenne. Et très vite, on avait cet aspect-là. Donc, on avait l'aspect des vestiges. Les vestiges qui étaient présents, réparés corriger et rendre, plus vertueux les vestiges de l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs à Bordeaux. Ça, c'était une première demande qu'on avait. On avait aussi, dès le début, le premier projet d'un mémorial. Un mémorial, un lieu qui fasse souvenir, mais aussi qui fasse présent, c'est-à-dire un lien qui permette de comprendre les racismes, les discriminations contemporaines, de se relier au monde. Et dès le début, on a aussi eu un projet, on avait proposé qu'on ait un parcours dans la ville, autour de ça. On l'avait proposé aussi. Donc, ces questions-là vont être médiatisées avec les élections municipales en 2001, et d'ailleurs, le maire de Bordeaux ne s'y trompera pas, puisque cette même année-là, il nous a reçus et il a promis des choses. Pratiquement, il était prêt à tout faire. Et seulement, la ville ne va pas vraiment répondre à ça. Elle était plus dans une perspective de récupération, de notabilisation, quelque part, plutôt que dans un travail de fond sérieux autour de cette question. Donc, nous, on va continuer les mobilisations. À l'époque, quand même, on a les rues de Négrier et on a l'impasse de Saint-Louverture.
Nous sommes ici à la troisième étape de notre parcours et de notre visite guidée. Nous avons, comme vous l'avez suivi, capturé des esclaves. Nous les avons chargés à fond de cale et dirigés vers l'Amérique. Le voyage vers l'Amérique est un voyage qui est terrible, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Au minimum, il faut 4 semaines pour que le navire puisse rejoindre, au minimum quand la mer est calme, ce qui était exceptionnel, il faut 4 semaines pour que le navire puisse rejoindre les côtes américaines. Il faut savoir que Bordeaux, du fait de son entreprise commerciale, de son emprise coloniale, Bordeaux, au XVIIIe siècle, était plus riche que le Royaume de France. Et cette place, lorsqu'elle a été inaugurée, elle rivalisait avec les plus belles places parisiennes. Lorsqu'elle a été inaugurée. Là, ce que vous voyez, c'est le mascaron créole. Hein? Vous voyez, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, hein, il a des traits qui me ressemblent un tout petit peu. Voilà, hein, des traits un peu africains. Voilà. Et donc, il y en a un certain nombre, hein, à Bordeaux, des mascarons créoles, on les appelle, qui montrent donc la présence noire à Bordeaux.
C'est toujours le même parcours.
Le parcours est le même. Alors il y a un autre parcours qui existe, c'est Chartron Créole. Mais c'est un parcours que j'aime pas. Je l'ai déjà fait, mais je ne l'aime pas. Pour plusieurs raisons, pour deux raisons principalement. La première, c'est que c'est un parcours qui passe beaucoup par des rues.
on traverse des rues. Et c'est compliqué quand on a un groupe de faire traverser des rues. La deuxième chose, c'est que ce parcours, en tout cas le parcours que j'ai mis en place, il se finit devant la plaque que Bordeaux a mise sur les quais. Je ne sais pas si vous connaissez cette plaque. Il y a une plaque sur les quais que Bordeaux a posée en 2006 et qu'elle est très fière d'avoir posée. Et je vous assure que c'est insupportable. C'est une petite plaque qui était posée, mais vraiment elle est petite, elle est plus petite que ça, pour témoigner du souvenir de Bordeaux à de l'esclavage. Sur les quais. Personne ne sait où elle est parce que rien n'est fait pour qu'on la voie. Personne ne sait. Voilà, personne ne sait.
Elle est où,
elle? Mais elle est en face de la Cité Mondiale.
Ah d'accord.
La Cité Mondiale, juste près du restaurant Ibaya.
D'accord. Voilà. Elle est juste pas le long du quai, un peu plus.
Alors un peu. Elle était cachée, elle était sur un parking. Pendant de 2006 à 2016, elle était sur un parking. Et nous avions dit que nous ne participerions plus à une manifestation qui se passerait devant cette plaque. C'est une honte. Bon, ils ont déplacé quand même la plaque parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même... C'était sur un parking, c'était piétiné par les voitures. Ils l'ont déplacé, ils l'ont mis sur un muret juste à côté. Elle est plus invisible maintenant. Elle est plus invisible, elle est sur un muret. Voilà. Et donc, le parcours que j'avais décidé pour Charton Créole, elle se finissait là. Je l'ai fait quelques fois. Donc j'ai commencé en 2016, mais à chaque fois quand j'arrivais là, ça me faisait trop mal au cœur. Voilà. Et donc j'ai décidé de ne plus la faire, ou en tout cas de la faire sur demande, parce que c'est vrai que les chartons sont intéressants, voilà, de la faire vraiment sur demande. Mais voilà, c'est trop dur de voir ça. Parce que Bordeaux, encore aujourd'hui, a encore du mal.
Parce que Nantes avait fait une très grande exposition, tout ça, des manifestations.
Absolument.
Dès les années 90.
Absolument, il y a un musée, un mémorial à l'abolition de l'esclavage, qui est sur les quais de Loire, 4 millions d'euros qui ont été financés par la ville de Nantes pour ça. À Bordeaux, ils n'ont fait que les salles du musée d'Aquitaine. Oui, c'est bien, mais on peut faire plus pour une ville qui était le premier port colonial français, qui a le plus profité de l'esclavage que tous les autres ports. Bon, je ne vais pas m'énerver parce que ça fait 18 ans que je m'énerve et c'est rare que je me laisse aller comme ça. Hein? Donc merci beaucoup à vous en tout cas.
Ce soir, on le fait à Bordeaux, parce que Bordeaux a un passé dégrillé. Et aussi de redécouvrir la mémoire. Ce jour-là, aujourd'hui, on va célébrer la mémoire des esclaves affranchis. La libération, l'affranchissement de l'esclavage. À travers les arts, il va y avoir de la poésie, de la musique, de la danse.
S'il vous plaît, pour bien nous entendre, le mieux c'est d'être en face du triangle. Donc il y a un triangle qui a été constitué, c'est un triangle qui va nous suivre pendant tout le long de cette marche, jusqu'à la dernière étape qui est Tania Saint-Léger. Est-ce qu'elle est par là? Nous ne pourrons pas démarrer, si vous le voulez, cette manifestation sans la présence de Tania. Est-ce qu'elle est là, Tania? De l'association La Cosmopolitaine. Association très engagée avec nous, à nos côtés, autour de cette mémoire de l'esclavage et de la traite des noirs. Merci beaucoup. Nous sommes le 10 mai. 10 mai, journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la traite des Noirs. Journée nationale de commémoration des résistances, des créativités, des inventivités extraordinaires que ce peuple a pu mener partout dans le monde pour proclamer sa dignité, pour proclamer son humanité. Nous sommes là pour cette marche au flambeau, pour révéler la vie et les quartiers d'habitation des Noirs libres de Bordeaux. Si nous savions qu'il y avait à Bordeaux des esclaves exploités dans les maisons bourgeoises, nous savions moins que certains d'entre eux, par leur entreprise, par leur dévouement, par leur engagement et par leur détermination, avaient réussi aussi à s'affranchir et à vivre à Bordeaux, qui était une société esclavagiste de l'époque. C'est à eux que nous allons rendre hommage ici. Donc pour démarrer cette cérémonie, je voudrais vous demander de respecter une musique de silence à la mémoire des victimes, des résistants contre ce crime contre l'humanité depuis la traite des Noirs et l'esclavage. Amazing, amazing grace. Merci beaucoup. Merci pour ce respect. Merci pour cette mémoire. Merci.
Merci. Sinona, Chayeyo en Caraïbla, Moyo en Continola, Chayeyo en Caraïbla, Moyo en Continola, Chayeyo en Caraïbla.
Chaîne de mémoire, la chaîne de conscience. Nous sommes le 10 mai 2018, journée nationale de commémoration des résistances et des abolitions de l'esclavage et de la traite des Noirs. Nous sommes ici à Bordeaux. Oui, mon garçon, nous sommes à Bordeaux. Comment tu t'appelles ? Adam, enchanté, je m'appelle Carfa. Adam, nous sommes à Bordeaux. Bordeaux, notre ville. Cette ville qui a été connecté au monde de fait de son commerce. Cette ville qui a été un port important dans l'esclavage et la traite des Noirs. Cette marche au flambeau est une occasion majeure d'un autre regard sur le passé négrier de notre ville. Nous sommes sur cette troisième étape de cette marche au flambeau. C'est une marche au flambeau, comme vous le savez, en cette étape. Chaque étape est un moment d'esclavage. Et chaque étape est une trace de l'histoire de l'esclavage à Bordeaux, avec ce thème principal des affranchis. Suriname, bien sûr, Liverpool, Bristol, Londres, Séville, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, Dunkerque, Saint-Malo, Rouen, Lorient, jusqu'à Marseille. Cette histoire, c'est l'histoire du métissage de l'humanité. C'est l'histoire de pulsions de vie contre des programmes de mort. Nous allons donc continuer. C'est la marche au flambeau, c'est le dîner, journée nationale de commémoration des résistances et de l'abolition de l'esclavage et de la traite des Noirs.
Peuple, plus de sang, plus de guerre qui font rougir l'humanité.
Aujourd'hui, 10 mai 2018, journée nationale de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine, nous pensons au Sénégal, à Mayotte, à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, sans oublier Haïti. Heureusement, nous avons des musées, ici le musée d'Aquitaine, les archives départementales, le mémorial ACT à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, le musée historique du Sénégal sur l'île de Gorée, et bien d'autres encore, et des associations avec leurs bénévoles qui prennent le relais et œuvrent à nous aider à mieux comprendre notre histoire, tout simplement. Le sujet est vaste et polémique, pourquoi pas. Mais ne nous battons pas sur des tombes, nous n'y étions pas. La Cosmopolitaine s'est mobilisée une nouvelle fois et a travaillé avec ses membres à la représentation de cette mémoire. Mais aussi le Labo des Lettres et Living Jazz, Du Soleil dans les Pieds, la compagnie Chêne Brisée, MC2A, la compagnie Le Dernier Strapontin. Des artistes bordelais s'impliquent également. Moka, Mas, Paul Bicep. Et je citerai également d'autres associations avec lesquelles nous partageons ce même effort, cette même envie. Mémoire et partage.
Alain Juppé a souhaité engager une politique de la juste mémoire, pour reprendre l'expression du philosophe Paul Ricoeur. Plusieurs initiatives ont déjà été prises. Je n'en citerai que quelques-unes. L'inauguration en 2005 du square Toussaint Louverture avec le buste de Toussaint Louverture. En 2009, le musée d'Aquitaine a rénové ses salles consacrées au XVIIIe siècle en accordant une place primordiale à la traite des Noirs et à l'esclavage et au rôle que la ville de Bordeaux a joué dans cette histoire. Intitulé « Bordeaux, le commerce atlantique et l'esclavage », ces salles connaissent une fréquentation très importante. Et enfin, le 3 mai dernier, lors de l'ouverture de la Semaine de la Mémoire, la commission de réflexion sur la mémoire de l'esclavage a remis son rapport et ses 10 préconisations à Alain Juppé. Il les a toutes retenues. Parmi ces 10 propositions, on peut citer par exemple l'édification d'un mémorial inspiré de Modeste Adélaïde Testas, esclave acheté par des Bordelais et déporté à Saint-Domingue. On peut donc accuser la ville de Bordeaux d'amnésie. Un tabou a longtemps existé dans notre ville, mais il est aujourd'hui bien levé. Héritier de l'abbé Grégoire, de Victor Schœlcher, d'Aimé Césaire, nous sommes aujourd'hui les dépositaires de ce moment de la conscience humaine, où la France brisa enfin les chaînes des esclaves pour leur accorder la liberté.
Cette histoire, c'est notre histoire. L'histoire de la France, de la métropole et des Outre-mer. Elle doit être dite, rappelée, enseignée, assumée, sans rien occulter. Notre histoire a sa part de grandeur, de gloire qu'il faut célébrer, mais elle a aussi une part plus sombre, qu'il faut en permanence éclairer, car c'est en regardant avec lucidité son passé qu'une nation peut bâtir avec responsabilité son avenir, se réconcilier avec elle-même. C'est tout le sens de cette commémoration. Ici réunis, nous affirmons une vérité, nous luttons contre l'oubli et nous rappelons également le long combat qui permit l'abolition de l'esclavage.
À 10 ans seulement, pour travailler au champ, on nous a embarqués. Vents et marées, un bateau négrier, plusieurs mois enfermés, torturés et frappés, en attendant la liberté.
Apaisement,
oui,
s'il te plaît.
Mais,
tu sais, moi, on va aller loin comme
je
ça.
Suis là-dedans.
Apaisement.
Je suis là-dedans. Franchement, je suis là-dedans.
Bon. Apaisement.
Okay.
Oui,
tu es ma sœur.
L'apaisement ne veut pas dire.
C'est ce que j'ai dit.
La même chose. Hein.
Comme j'ai dit, polémique. J'ai bien dit polémique. Pourquoi pas,
ouais, bah ouais.
Je l'ai dit, c'est écrit.
Très beau discours.
J'ai entendu.
Il ne faut pas croire. J'ai pas l'air comme ça, mais il ne faut pas croire.
Bon, à tout à l'heure.
Bonjour. Je me suis dit, c'est aussi parce qu'il y avait, normalement, il y avait le préfet qui devait être là, oui. Et bon, monsieur le préfet, c'est pareil, mais pour comprendre l'État, tu vois, il faut bien quand même poser les choses. C'est-à-dire oui. Qu'on n'est pas là pour parler du passé, c'est un passé qui a une conséquence aussi aujourd'hui et maintenant. Et c'est sur ça que l'État peut agir, et sur lequel, bon, on ne veut pas dire que l'État soit quand même très présent et investi. Deux choses qui sont un peu lourdes, c'est le mémorial à l'effigie de Modeste Testas, où ça demande un travail d'artiste, hein, un travail d'artiste avec les marchés publics, avec le travail lui-même de l'artiste, ça peut prendre du temps. Il y a aussi le réaménagement du square Toussaint Louverture où là pareil on se dirige vers un concours d'artistes avec des propositions de réaménagement et donc il y a des délais de marché public, il y a des délais de prise de décision et de mise en œuvre. Donc l'objectif c'est que ce soit bouclé pour fin 2019.